écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour, heureux de vous retrouver et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Si vous vivez dans un pays confiné pour cause de Covid-19, vous le savez, les voitures, les trains, les avions sont au garage, les usines, quand elles tournent, tournent au ralenti, l'économie est à l'arrêt. Conséquence, la demande d'essence et de fioul a chuté et la matière première, le pétrole, est surabondante. Ses prix en chute libre sont même passés par moments sous la barre des 0$. L'or noir ne mériterait plus son nom, ce ne serait plus qu'une vulgaire mélasse dont plus personne ne voudrait plus aux grandes dames de ceux qui la détiennent et chercheraient à tout prix à s'en débarrasser. Alors pourquoi le marché pétrolier réagit-il si vivement? Quel impact sur les grandes entreprises pétrolières, sur l'économie des pays producteurs et consommateurs? Et surtout, est-ce que ce qui se passe sur ce marché est une anticipation de la situation économique générale à venir? Voilà les questions que nous allons aborder avec les trois invités que je vous présente maintenant. Bonjour Antoine Rostand.
Oui, bonjour.
Antoine Rostand, vous êtes le président et le cofondateur d'une jeune entreprise, Kairos, qui est spécialisée dans l'analyse de mégadonnées dans le domaine énergétique. Vous avez effectué toute votre carrière dans le secteur pétrolier. Et avec vous dans cette émission, Gilles Chautard, bonjour.
Bonjour.
Gilles Chautard, vous nous parlez de Genève en Suisse, où vous vivez après avoir pendant plusieurs décennies travailler sur le marché pétrolier comme trader. Enfin, je termine cette présentation par vous, Philippe Chalmin. Bonjour.
Bonjour.
Philippe Chalmin, vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, où vous enseignez en particulier l'économie des matières premières, et vous publiez tous les ans Cyclope, un pavé monumental qui fait le tour des marchés des matières premières et qui fait autorité. Alors au cours de cette émission, bien sûr, des reportages, nous rejoindrons Thomas Arns au Texas, au cœur du marché pétrolier américain, et Gabriel Maréchaux nous attend à Kuala Lumpur en Malaisie, où elle nous parlera de la faillite d'un trader emblématique de Singapour. Gilles Chautard, on va commencer avec vous cette émission. Vous avez une longue carrière de trader, je disais, de trader de pétrole. Derrière vous, vous avez passé plusieurs décennies à acheter et à vendre du pétrole. C'est souvent très stressant. Et ce qui a fait sensation ces dernières semaines, c'est le passage du pétrole dans ce qu'on appelle la valeur négative. Alors, comment est-ce qu'on peut acheter ou vendre du pétrole dont le prix est moins 37, moins 40 dollars? On a du mal à l'imaginer.
Oui, en effet, bien sûr, mais il ne faut pas estimer que ça va être une situation durable. Ça a été une situation tout à fait conjoncturelle et qui est due à des facteurs techniques plus qu'autre chose. Le fait que le prix du pétrole soit bas et probablement doit rester bas pendant longtemps, c'est une autre chose.
On parle souvent de la volatilité des marchés des matières premières, le fait que les prix fluctuent énormément. Est-ce que vous, dans votre carrière de trader, vous avez connu un prix du baril aussi bas?
Quand j'ai commencé à travailler tout début des années 80, le prix du pétrole valait à peine plus que 10 dollars. Hein. Les coûts de production étaient de 1, 2, 3 dollars et le marché, les prix étaient limités dans l'économie mondiale, à peine au-dessus. Et au fil des années, tout a changé. On est allé jusqu'à 147 dollars et puis maintenant on retombe dans une phase basse. Et on verra bien jusqu'à quand elle va durer.
Alors, en tout cas, il y a un grand connaisseur des affaires pétrolières qui a un avis tout à fait autorisé sur le marché ces derniers jours. C'est le président américain Donald Trump. Entre deux déclarations sur les traitements les plus adaptés pour lutter contre le Covid-19, écoutez ce qu'il disait le 20 avril dernier concernant le marché pétrolier.
Vous savez, le problème, c'est que plus personne ne conduit de voiture dans le monde. Les usines ont fermé, les commerces ont fermé, et on avait beaucoup de stocks d'énergie, en particulier de pétrole. Nous en avions beaucoup, et tout d'un coup, on a perdu 40 à 50% de notre marché. Mais cela va remonter, et le secteur de l'énergie va se renforcer. C'est une bonne période pour acheter du pétrole, et nous aimerions avoir l'approbation du Congrès pour le faire. Je crois que dans nos réserves, nous avons encore une capacité de stockage de 75 millions de barils. C'est beaucoup. Donc soit nous allons avoir l'autorisation d'acheter, soit nous stockerons pour des tiers. D'une manière ou d'une autre, les stocks seront pleins.
le président Donald Trump, donc sur les marchés pétroliers. Philippe Chalmin, est-ce que Donald Trump vous semble un expert crédible en matière pétrolière, au vu des déclarations que vous venez d'entendre ?
Il n'a pas dit des idioties. Il avait dit d'ailleurs que l'affaire du 20 avril, quand les prix ont été négatifs, était un squeeze financier. Et c'était effectivement un squeeze un peu subtil dans lequel...
Alors, Philippe Chalmin, dites-nous ce que c'est qu'un squeeze financier.
Un squeeze, c'est un étranglement. D'habitude, un squeeze, c'est lorsque quelqu'un est en position de vendeur sur un marché et puis qu'il ne trouve pas la marchandise qu'il devrait vendre et donc il est obligé de racheter sa position à n'importe quel prix.
Ça, c'est la technique compliquée de marché à terme.
De matière première.
Voilà.
C'est pas bien un squeeze, c'est normalement interdit, c'est surveillé. Là, ça a été beaucoup plus subtil parce que le squeeze a porté sur des emplacements de stockage. Vous aviez des gens qui étaient acheteurs et qui ne pouvaient pas acheter parce qu'ils n'avaient aucun endroit où stocker le pétrole qu'ils auraient acheté. Donc, quelque part, Trump a raison, et il a raison de dire qu'avec le confinement mondial, la consommation de pétrole, le pétrole c'est 100 millions de barils jour, eh bien la consommation baisse sur le deuxième trimestre probablement de 25 à 30 millions de barils jour. Comment, plus à ce moment-là, le petit prince saoudien a trouvé le moyen de lancer une guerre des prix et d'augmenter la production, on s'est retrouvé avec des excédents mondiaux, les prix ont baissé. Et c'est vrai qu'à ces prix-là, d'ailleurs il y a beaucoup de traders, et M. Chotard doit reconnaître, qui actuellement prennent du pétrole physique, essaient de le stocker, que les prix sur la fin de l'année sont quand même beaucoup plus élevés.
Ils spéculent quoi, ils font leur métier de spéculateurs.
C'est même pas de la spéculation. Quand vous avez le prix de... Si vous pouvez stocker votre pétrole, le prix du pétrole aujourd'hui, suivant les qualités, se balade entre 10 et 25 dollars. Si vous pouvez le stocker, sachant que le prix à terme sur la fin de l'année est de l'ordre... Je vais vous prendre le WTI, le prix américain. Actuellement, il cote aux alentours de 17 dollars pour le rapprocher. Fin juin, il est déjà à 24 dollars. Et début 2021, il est à 32 dollars.
C'est-à-dire les livraisons, début 2021, le pétrole qui sera vendu à cette époque-là est théoriquement prévu pour être à ce prix.
Voilà, c'est ce qu'on appelle un marché en report. Le terme technique, c'est du contango. Si vous pouvez louer un tanker, il y a 160 millions de barils qui aujourd'hui sont stockés sur des tankers et il y en aura peut-être plus demain. Et c'est une opération rentable et non spéculative en plus.
Alors Antoine Rostand, vous êtes donc, je le disais, le patron de Kairos, une entreprise qui analyse les données du marché pétrolier. D'abord, avant d'aller au fond des choses, pour bien qu'on situe votre travail, Kairos, c'est quoi précisément ?
En fait, c'est une société qui utilise des données dites alternatives, essentiellement des données satellites, pour mesurer justement tout ce dont on parle, la production de pétrole. Donc on suit tous les puits de pétrole dans le monde pour savoir s'ils fonctionnent ou pas. On suit le niveau des inventaires de stockage, que ce soit flottant ou à terre. Et on suit la demande, donc aussi bien en suivant le transport qu'en suivant l'état d'utilisation des raffineries. Mais... Ça nous permet d'objectiver beaucoup ces discussions, dans la mesure où le marché de l'énergie a été traditionnellement un marché très opaque, avec des données soit manipulées par les États, soit impossibles à obtenir. Et donc nous, on fournit la transparence sur les marchés de l'énergie en utilisant des mesures objectives et en temps réel de ce qui se passe sur le marché.
Mais comment est-ce qu'un satellite peut renseigner sur l'état d'activité d'un puits de pétrole ?
En fait, il y a plusieurs choses qu'on peut regarder. On peut regarder si le brûle du gaz, donc il y a beaucoup de pays qui brûlent leur gaz, en Libye, en Algérie, en Iran, en Irak, donc il y a beaucoup de pays qui brûlent, ou aux États-Unis.
C'est-à-dire que quand on extrait le pétrole, il y a également du gaz qui sort, c'est les torchères. Et donc s'il y a du gaz qui brûle, c'est qu'il y a du pétrole qui est produit, c'est ça ?
Voilà, en fait, le volume de gaz est proportionnel à la production dans beaucoup d'endroits. Aux États-Unis, on suit l'activité de fracturation hydraulique en temps réel, qui est la dernière étape avant la mise en production des puits. Et donc on est capable de modéliser la production qui vient du pétrole de schiste aux États-Unis.
Mais en ce moment, avec une économie mondiale qui est quasiment à l'arrêt, est-ce qu'il y a suffisamment de données produites pour être analysées et en tirer des conclusions pertinentes ?
Oui, oui, on suit tous les stocks. Donc les stocks ont évidemment monté de manière importante, mais beaucoup moins que disons, les estimations faites sans mesure. On est plutôt sur une augmentation de 6 à 7 millions de barils par jour sur les deux derniers mois. Donc nous, on ne voit pas une baisse de 15 à 20 millions de la demande, hein, généralement. La demande de pétrole en Chine est revenue à son niveau initial. On est à 14 millions de barils par jour de consommation en Chine. Et au plus bas, c'était à 11. Et ça a duré 2 mois. Donc en fait, les volumes qui auront besoin d'être stockés suite à la crise du Covid, on pense que nous n'arriverons pas jusqu'à ce qu'on remplisse complètement les cuves. Donc on pense qu'il y a suffisamment de capacité si le comportement de l'économie dans le reste du monde est similaire à celui qu'on voit en Chine.
Philippe Chalmin disait qu'il y avait 160 millions de barils qui se baladaient sur les océans dans les tankers. C'est un chiffre que vous avez sur vos écrans également ?
Oui, on suit tout à fait le... Donc l'oil and water, c'est plus, hein, parce que 160, c'est les bateaux qui sont à l'arrêt. Nous, on suit à peu près 5 milliards de capacité de barils. Aujourd'hui, on n'est pas au plus haut de ce qui a été des capacités de stockage, mais c'est sûr qu'il y a eu un squeeze important spécifique aux US sur le WTI avec l'endroit de stockage à Cushing, Oklahoma. Mais pour le reste, on a encore du temps avant d'arriver donc à des cuves complètement pleines et donc à des prix négatifs sur les principaux benchmarks.
Gilles Chautard, ce que vous entendez là vous étonne ou pas ?
C'est étonnant. La dynamique de marché a réagi très 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 rapidement à cette crise sanitaire. Il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a deux marchés pétroliers. Il y a le marché des futurs, des marchés à terme, si vous voulez. Mais il y a également le marché physique, des barils physiques qui doivent être mis dans des raffineries pour transformer en produits pétroliers. Et lorsqu'on dit que le Brent est à 21 ou 25 dollars et que le WTI est à 16, ça c'est sur les marchés à terme. Mais les marchés physiques de pétrole brut et de produits pétroliers sont beaucoup plus bas que ça, hein, parce que la cotation qui gère les prix physiques du pétrole brut s'appelle le Platts Dated Brent, la cotation Dated Brent, qui elle est autour de 16 dollars. Et puis après, vous devez acheter et vendre vos cargaisons physiques, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui va en prendre la propriété et l'amener sur un bateau dans une raffinerie. Et en ce moment, si vous n'avez pas vendu à terme vos barils physiques, si vous êtes propriétaire d'une cargaison qui va charger dans 1 ou 2 semaines, vous êtes obligé d'octroyer des discounts très très importants parce que justement les stocks sont relativement pleins et les raffineries ne raffinent plus parce que la demande est très faible. Et vous avez des situations où le brut vénézuélien, par exemple, vaut entre 1 et 3 dollars par baril. Si vous avez une cargaison physique prompte à vendre, si vous êtes propriétaire d'une cargaison de pétrole de Berre du Nord ou du Nigeria, vous obtenez entre 5 et 6 dollars par baril, c'est-à-dire pratiquement rien du tout. Et là, c'est un vrai problème. Alors, c'est un problème qui est très conjoncturel, qui ne risque de pas durer éternellement, mais qui est quand même important. Des prix bas, et des prix bas, on en a vu déjà assez souvent dans l'histoire, mais des prix qui sont proches de zéro, sur une manière relativement durable, là c'est nouveau.
C'est-à-dire, tout à l'heure vous évoquiez les débuts de votre carrière de trader avec un baril à 10 dollars, là c'est encore plus bas.
Là c'est encore plus bas parce que sur les cargaisons physiques promptes, pour lesquelles il y a une demande pratiquement nulle, il faut savoir que les raffineurs n'achètent pas tout sur le marché spot, ils ont des contrats à terme d'approvisionnement avec des pays producteurs à des prix liés à des coûts, liés à des prix officiels, etc. Mais il y a quand même environ 5% de la production physique mondiale de pétrole brut qui est échangée tous les jours entre un acheteur et un vendeur sur des cargaisons spot, dites spot, et c'est ces 5% du volume qui fabrique le prix, qui conditionne le prix sur les 95% restants qui, eux, sont vendus à terme par les pays producteurs à des grandes raffineries.
Philippe Chalmin, c'est un marché compliqué, ce marché pétrolier.
Ah bah, de toute façon, et je crois que je suis tout à fait d'accord, vous avez actuellement un certain nombre, sur le marché physique, qui est un marché relativement étroit, vous avez beaucoup de pétrole qui sont à moins de 10 dollars. Le Maya mexicain, par exemple, s'est baladé aux alentours de 5 dollars. On m'a dit même qu'on avait été très proche de prix aux alentours de zéro physique dans les zones de production du Texas. Il y a une petite bourgade qui s'appelle Midland. Bah, à Midland, on était aux alentours de 1 à 2 dollars à la sortie des puits, au point qu'il y a certains contrats qui ont été renégociés avec une clause disant que le prix physique ne pouvait pas descendre en dessous de 10 cents le baril, de manière à éviter des prix négatifs. Je vous rappelle d'ailleurs que la notion de prix négatif, qui a énormément choqué parce qu'on ne comprenait pas, c'est une notion qui existe sur les marchés de matières premières pour toutes les productions que je qualifierais de fatales. On a parlé du torchage du gaz naturel. Ben, si vous ne voulez pas torcher le gaz naturel, ce qui est quand même assez mauvais pour votre environnement, eh ben, on a eu au mois de mars des prix négatifs du gaz naturel, des prix physiques négatifs, parce que des producteurs, pour se débarrasser de leur gaz naturel, étaient obligés de payer les acheteurs. Et on a eu de la même manière en Europe, et on a régulièrement des prix négatifs de l'électricité lorsqu'il y a trop de production par rapport à la consommation. Alors moi, il y a un simple point sur lequel je trouve que l'apport de M. Rostand est important. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, tout le monde, à commencer par l'Agence internationale de l'énergie, nous dit que la consommation mondiale de pétrole devrait baisser en moyenne de 9 à 10 millions de barils jour en 2020, avec des chiffres qui circulent de l'ordre de 20 à 25 millions de barils jour sur le deuxième trimestre 2020. A priori, ce serait au mois de mai qu'on aurait vraiment un pic négatif de la demande. Et si ce que M. Rostand dit est exact, et c'est vrai que la consommation en Chine a retrouvé pratiquement ses couleurs d'avant, on aurait peut-être de ce point de vue-là un excès de pessimisme des marchés. Moi, en tout cas, ma vision, mais elle n'engage que moi, et finalement, nos amis sont beaucoup plus grands experts que moi, il me semble
que... Vous êtes trop modeste, Philippe Chalmin, vous êtes trop modeste.
Il est difficile de prévoir l'avenir, vous le savez, et surtout l'avenir. Et donc, moi, il me semble que les niveaux actuels pourraient être considérés comme des planchers, dans la mesure où quand même, on va avoir une diminution de l'offre décidée par l'OPEP et un certain nombre de producteurs, et qu'il y a déjà d'ailleurs, moi les derniers chiffres que j'avais sur les États-Unis, et il semblerait qu'aux États-Unis, entre la mi-mars et aujourd'hui, il y a eu quand même une baisse de production de l'ordre d'un million de barils jour. Vous avez un certain nombre de producteurs qui ont décidé de réduire leur production. Il y a des tas de petits puits. Vous savez que aux États-Unis, il y a 275 000 puits qui produisent moins de 15 barils par jour, avec des coûts de production élevés. Cela, ils risquent de fermer.
Justement, Philippe Chalmin, vous me fournissez une parfaite transition avec notre premier reportage. L'une des industries pétrolières les plus frappées par cette situation, c'est l'industrie américaine. Hier florissante, créant d'énormes richesses et beaucoup d'emplois au Texas en particulier, elle n'a plus aujourd'hui, semble-t-il, que ses yeux pour pleurer. Écoutez ce reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Thomas Harms à Houston.
Au Texas, 2500 à 3000 petites entreprises pratiquent la fracturation hydraulique, autrement appelée pétrole de schiste. Ces PME exploitent jusqu'à 1000 barils par jour, mais depuis le 20 avril, leur production ne vaut plus rien. Ils doivent même payer pour la stocker. Caringham est vice-président de l'Alliance des producteurs d'énergie au Texas, une association qui regroupe 2600 entreprises du secteur.
Cela va ruiner certaines entreprises. Il va se passer un certain temps avant que l'on puisse se dire que les conséquences économiques du coronavirus sont derrière nous et le carnage qu'il a suscité sur l'industrie du gaz et du pétrole. Il n'y a vraiment qu'une seule voie à suivre et c'est de retrouver une demande normale d'énergie. Le pétrole est toujours dans la roche et quelqu'un va bien trouver un moyen d'aller le récupérer. Ce n'est pas rentable maintenant, mais un jour, ça va le redevenir.
Mais pour cela, il faut attendre que la demande revienne, alors qu'elle a disparu au point que 30 millions de barils de trop sont produits chaque jour dans le monde. Et il y a peu de chances qu'après la crise du coronavirus, on reprenne aussitôt comme si de rien n'était. John Diamond est économiste au Baker Institute, un think tank de la Rice Université de Houston.
Le problème quand on va relancer l'économie sera peut-être que les gens ne seront pas prêts à replonger dans le même style de vie que celui qu'ils avaient avant. Du côté du pétrole, les contrats pour le mois de mai sont négatifs et ceux pour le mois de juin chutent. Il y a un besoin désespéré d'arrêter la production parce que vous ne savez pas où la stocker et parce que personne ne veut acheter. Dans cette situation, je pense que 30 à 50% des petites entreprises ne vont pas s'en sortir. Il y a une comparaison intéressante entre Houston aujourd'hui et Détroit il y a 40-50 ans, quand l'industrie automobile a commencé à avoir ses problèmes.
À l'autre bout de la chaîne de production pétrolière, on trouve les entreprises de prospection, de forage et de services. Or, avec cette crise, personne ne cherche à creuser de nouveaux puits. Les résultats du premier trimestre des géants du secteur sont parlants. 1 milliard de pertes pour Halliburton, 7 milliards pour Schlumberger, 10 milliards de pertes pour Baker Hughes. Il faudrait au mieux un an pour que cela s'arrange. Mais même au Texas, le visage de l'énergie pourrait changer, comme le dit Lorraine Steffi, spécialiste de l'industrie pétrolière.
On a déjà vu en Chine, par exemple, en même temps que l'économie s'est relancée, une hausse importante dans l'utilisation des énergies renouvelables. On pourrait voir la même chose ici aux États-Unis, où l'énergie renouvelable et les préoccupations autour du changement climatique pourraient à l'avenir jouer un plus grand rôle dans notre bouquet énergétique.
Mais ce n'est pas pour tout de suite. En attendant, le nombre de chômeurs au Texas ne cesse d'augmenter, en partie à cause des nombreux licenciements en cours dans l'industrie du pétrole.
Un reportage signé Tom Harms dans l'Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Nous parlons du secteur pétrolier, un secteur de l'économie mondiale qui est apparemment sinistré, avec trois invités, l'ancien trader Gilles Chautard, le professeur d'économie Philippe Chalmin et Antoine Rostand, président de la société Kairos. Alors messieurs, bien sûr, vous avez écouté avec attention ce reportage qui nous vient du Texas. Antoine Rostand, alors Tom Harms donne un chiffre, 30 millions de barils de production mondiale de trop, qui contraste avec ce que vous nous disiez tout à l'heure d'une chute de consommation de demande de 5 à 6 millions.
Oui, donc moi je ne vais pas spéculer, nous on mesure les choses. Nos données sont utilisées par tous les traders, donc je pense qu'on sait à peu près de ce qu'on mesure. Aujourd'hui, les stocks de pétrole en floating roof sont à 2,7 milliards. On avait le même niveau en 2017, donc on n'est absolument pas dans une situation où il manque des capacités de stockage. On est dans une situation où il y a une spéculation sur les capacités de stockage et des squeezes qui sont organisés localement pour pouvoir bénéficier un peu de la panique qu'il y a sur les marchés aujourd'hui. Mais de la même façon, oui. Sur la demande, on suit la demande et aux États-Unis, il y a une baisse importante de la consommation d'essence, mais le trafic commercial, donc diesel, a baissé que de 15 à 20%. Donc je pense qu'il y a beaucoup de sensationnalisme dans les chiffres qui sont mis sur le marché. Et c'est pour ça qu'on existe, hein, c'est qu'on essaye de donner de la rationalité et de mesurer ce qui se passe. Aujourd'hui, ça fait depuis le début du Covid, on a mesuré l'ensemble de l'augmentation des stocks et on est en moyenne à 5-6 millions de barils par jour. On n'est absolument pas sur 15-20. Et comme on voit la demande recommencer à démarrer aux États-Unis et en Europe, évidemment, avec le déconfinement, on ne va certainement pas être à une baisse de l'ordre de 15 à 20, comme M. Trump l'a dit.
Mais alors, comment expliquer que, comme le disaient Gilles Chautard et Philippe Chalmin, il y a des barils physiques qui se négocient autour de 3, 4, 5 dollars?
Oui, mais ça, c'est des problèmes logistiques, comme M. Chautard le disait. Le problème, c'est qu'il peut y avoir, il y a des capacités de stockage dans les Caraïbes, mais elles ne sont pas au Texas. Donc, s'il y a des capacités de stockage, elles ne sont pas forcément au bon endroit. En plus, vous ne pouvez pas mélanger les types de crude. Donc, il faut du temps pour que le système s'adapte. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui connaissent exactement les contraintes de logistique et qui en profitent pour spéculer sur maintenant. Là, ce qui a de la valeur, ce n'est pas le pétrole, c'est la capacité de stockage. Et aujourd'hui, les investisseurs sur les commodities investissent sur les capacités de stockage pour optimiser leurs gains, en profitant un peu de la panique qu'il y a aujourd'hui sur les marchés.
Philippe Chalmin, est-ce que c'est cette situation qui explique que beaucoup de gens au Texas soient amenés à devoir fermer leur puits, comme vous le disiez tout à l'heure?
Disons qu'il y a eu quand même deux choses, et il ne faut pas l'oublier. Parce que ce qui a déclenché, je ne suis pas sûr que la baisse des prix du pétrole aurait été aussi importante s'il n'y avait pas eu la crise provoquée par l'Arabie Saoudite le 5 ou 6 mars. En janvier et février, le prix des pétroles, on est déjà dans le coronavirus, on est en plein dans le coronavirus en Chine, et le prix du pétrole reste gentillettement aux alentours de 50 à 55 dollars le baril, avec un marché dont on savait, on estimait qu'il était à peu près excédentaire, de l'ordre d'un million de barils jour. À ce moment-là, les Saoudiens et Mohamed bin Salman, pour ne pas le désigner, qui lui avait un objectif, c'était de maintenir la cotation envers et contre tout d'Aramco, pousse l'OPEP à réduire encore sa production de 1,5 million de barils jour, de concert avec la Russie. Les Russes disent... C'est complètement idiot de continuer à réduire notre production parce qu'au fond, on fait le jeu des producteurs américains. Et les Russes disent, niet, on n'y va pas. À ce moment-là, Mohamed bin Salman pique une colère. Je le compare au petit prince Abdallah dans Tintin au pays de l'or noir. Il pique une colère et il dit, c'est comme ça, on va produire comme des malades. Et à ce moment-là, alors même qu'on se doutait qu'il y aurait un peu de baisse de la consommation liée au coronavirus, mais il n'y avait pas les chiffres qui circulent aujourd'hui, à ce moment-là, on a eu un premier contre-choc pétrolier. On est tombé de 20-25 dollars le baril. On est tombé aux alentours de 30 dollars le baril. Et puis, c'est ensuite que... Bon, on a pris conscience qu'ils allaient beaucoup plus produire au mois d'avril. On parlait de 3-4 millions de barils jour de plus. Et là-dessus, on a commencé à prendre conscience de l'ampleur du coronavirus. Bon, moi, je n'ai pas du tout les données. Bon, je n'ai que les données des estimations, celles de l'Agence internationale de l'énergie, etc. Donc, si ce que les estimations de Kairos sont bonnes, c'est plutôt positif. Mais on a eu l'impression sur... avril-mai, que la chute de la consommation était beaucoup plus importante, notamment le kérosène, il n'y a pas quand même beaucoup d'avions qui circulent, l'essence, et le prix de l'essence est quand même sacrément tombé, et donc on a vécu un deuxième contre-choc lié à la demande.
Philippe Chalmin, moi je voudrais vous interroger tous les trois sur, malgré tout, au cœur de cette crise, à la fois de la relation entre les Saoudiens, les Russes, les Américains, de ce triangle pétrolier fatal, et puis de la crise liée à la baisse de la consommation, au confinement, etc., il y a le pétrole de schiste américain. Est-ce que ce pétrole de schiste est menacé? Est-ce que la production américaine va baisser massivement à la suite de cette crise? Antoine Rostand, est-ce que vous voyez ça sur vos écrans?
Oui, donc on suit le niveau de fracturation hydraulique, donc ça, le nombre de flottes de fracturation a été divisé par deux là, en quelques mois, donc ça, c'est en train de baisser en chute libre. Et de la même façon, le flaring, donc le torchage de gaz, qui était un bon indicateur de production, a énormément baissé. Donc c'est clair que les premières victimes sont au Texas, enfin sont aux US. Et je suis tout à fait d'accord là avec M. Chalmin sur le fait que c'est le choc de demande plus le choc de la surproduction de l'OPEC qui a amené là où nous en sommes et qui a créé un peu cette situation dans le marché. En revanche, nous, ce qu'on a vu, c'est que les Saoudiens avaient augmenté leur production avant la réunion du 3 mars. Donc en fait, la colère était peut-être un petit peu jouée, mais ils avaient déjà commencé à relancer Gawar avant cette réunion. Donc c'est une...
Gawar, c'est un des champs saoudiens.
Oui, c'est le plus gros champ saoudien. Donc en fait, il y avait une intention, je pense, à mon avis, consciente ou inconsciente, des deux, donc des Saoudiens et des Russes, de faire en sorte que le pétrole de schiste, qui est un vrai problème pour eux, soit éliminé et qu'ils profitent de la baisse de demande liée au Covid pour éliminer des concurrents qui étaient extrêmement gênants et qui mettaient un espèce de plafond au prix du baril. Donc Notre analyse de la situation, c'est que, un, les Saoudiens ont profité de la demande liée au Covid pour lancer la guerre des prix et éliminer des concurrents à prix élevé qui sont essentiellement au Texas.
Et donc, ils vont avoir gain de cause ?
Oui, tout à fait.
Donc, ça veut dire une disparition de production de combien de millions de barils du côté américain ?
Effectivement, là, je suis d'accord avec les chiffres qui ont été donnés, 1,5 million, 2 millions. Surtout, ça va casser la dynamique d'investissement qui était un peu une espèce de Ponzi scheme, un schéma à la Ponzi, où il y avait assez peu de rentabilité des capitaux, mais il y avait en permanence de la dette qui était créée pour créer de la production de pétrole à coût relativement élevé. Donc ça va continuer à produire, parce qu'il y a des puits qui vont être profitables même à 10 ou 15 dollars, ou 20, mais il y aura un niveau de production qui sera beaucoup plus faible que celui qu'on avait avant la crise.
Donc, Gilles Chautard, ce qu'on voit, c'est que les États-Unis vont quand même devoir réduire leur force, enfin vont voir leur force réduite sur le marché mondial du pétrole.
D'abord, ils ne vont pas réduire eux-mêmes, sont les forces du marché réduire. Voilà. D'autre part, on voit, ça c'est une règle universelle, c'est que la nature a horreur du vide. Donc dès qu'il y a un vide quelque part, il doit être rempli par quelque chose. Hein. Alors aux États-Unis, il est très probable que bon nombre de sociétés de production de pétrole de schiste, qui sont déjà très endettées, vont faire faillite. Elles vont peut-être entraîner dans leur faillite un certain nombre de banques, notamment de banques du Texas, qui les finançaient et qui ne seront pas remboursées sur leurs prêts. Mais ces sociétés vont être rachetées et reprises par des groupes qui ont de l'argent et qui vont probablement pouvoir donc racheter à bas coût ces prix et remettre, lorsque les prix remonteront, remettre la production en route. Mais la nature a horreur du vide aussi partout ailleurs, c'est-à-dire qu'on a remarqué par exemple que nos amis chinois en profitent puisque leur demande, elle, est remontée pratiquement au niveau d'avant la crise, eh bien ils remettent en route des mines de charbon par exemple, parce que le charbon évidemment est très très facile à produire et à très très bas coût. On voit également que les gens qui ont des liquidités, notamment les États qui ont encore quelques liquidités, peuvent maintenant reconstituer leur stock stratégique. Et eux qui ne sont pas hedgés, donc qui sont dont les décisions d'achat sont liées uniquement au prix absolu, hein, ils voient qu'à 10, 5, 10, 12, 15 dollars par baril, évidemment, on peut reconstituer les réserves stratégiques après bas coût, et il y a encore de la place de stockage. Donc, entre ce qui va être déplacé du pétrole à d'autres énergies sales ou propres, et puis qui va remplir là où il y a encore du stockage, par exemple les stocks stratégiques, on voit que les tendances risquent de se compenser, de revenir à l'équilibre dans les jours qui viennent. Elles l'ont toujours fait, donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. Mais ce qu'il faut noter également, c'est que je crois 60 ou 70% de la demande de produits pétroliers est considérée, sert au transport. Transport maritime, aérien, ferroviaire, etc., etc. Il est assez probable que les habitudes de consommation des consommateurs vont changer et que la demande de jet fuel, par exemple, pour les avions, ne reviendrait pas du sitôt au même niveau. Il est possible que les gens vont peut-être moins voyager pendant une longue période. Il est possible donc que l'industrie pétrolière va devoir se réinventer. Dans des activités qui sont beaucoup moins liées au transport. Et probablement, ce sera la chance pour elle de survivre, parce qu'elle devra trouver des activités à plus forte valeur ajoutée que simplement brûler des litres d'essence dans un moteur thermique.
Par exemple,
on parle de plus en plus d'avions électriques. Hein, donc, on parle beaucoup plus, évidemment, de voitures électriques.
Par exemple, quand vous dites que l'industrie pétrolière va devoir se réinventer pour produire de la valeur ajoutée, c'est quoi ? C'est l'industrie chimique ? C'est quoi ?
Oui, la pétrochimique, essentiellement. Par exemple, quand l'acier, les industries sidérurgiques ont toutes fait faillite les unes après les autres il y a quelques décennies, maintenant les seules aciéries qui vivent et qui vivent bien sont celles qui fabriquent des aciers tout à fait spécifiques, tout à fait à haute technologie, à haute valeur ajoutée, et pas uniquement pour fabriquer de la tôle. Voilà. Eh bien, je pense que le pétrole, l'avenir du pétrole, sera non plus dans la quantité, mais plutôt dans la qualité des produits qu'il fabriquera.
Philippe Chalmin, comment est-ce que les pays africains comme le Nigeria ou l'Ongala ou même l'Algérie sont armés pour résister à cette situation, à ce marché qui est quand même très dur, très, très violent?
Ben, le drame, c'est qu'ils ne sont pas armés. Le drame, c'est qu'ils sont les premières victimes de ce que j'ai toujours appelé la malédiction du pétrole. Le Nigeria avait bâti son budget cette année, de manière assez raisonnable d'ailleurs, sur un baril à 57 dollars. Le Bonny Light, qui est le pétrole de référence du Nigeria, s'est changé la semaine dernière à 13 dollars. Donc, et le Nigeria, quand vous enlevez le pétrole, il n'y a rien d'autre. Ce qu'on appelle le point d'équilibre fiscal qui permettrait d'équilibrer le budget de l'Algérie est à 109 dollars. Je signale d'ailleurs qu'il est à plus de 80 dollars en ce qui concerne l'Arabie Saoudite et qu'il est quand même aussi à 42 dollars en ce qui concerne la Russie. Mais la Russie et l'Arabie Saoudite ont quand même des poches, même si les poches saoudiennes commencent à être moins bien remplies. Mais par contre, des pays comme le Nigeria, comme l'Angola, qui ont, allez, littéralement tout claqué, regardez la Guinée équatoriale, etc., le Gabon, dans un genre un tout petit peu plus sérieux, ça, c'est littéralement dramatique. C'est ce que l'on a appelé la Dutch Disease, le mal néerlandais, moi que j'ai toujours appelé la malédiction des matières premières, mais qui dans le cas du pétrole s'exprime tout particulièrement. Et alors je vous signale quand même une chose, c'est qu'à côté du pétrole, il y a un autre hydrocarbure dont la chute des prix est aussi et même plus importante, c'est le gaz naturel. Il y avait d'énormes projets de développement, de production de gaz naturel, de liquéfaction dans le canal du Mozambique. Exxon, pour ne pas le nommer, vient de les mettre de côté pour un certain temps. Donc tous les pays qui ont pensé que grâce aux matières premières en général, au pétrole en particulier, ils allaient se développer, ils sont aujourd'hui dans un état pire que ce qu'ils étaient auparavant, et le pétrole ne leur a apporté malheureusement que déboires et malheurs.
Antoine Rostand, sur vos écrans de contrôle, vous voyez ce qui se passe en Afrique?
On voit ce qui se passe en Afrique, c'est sûr que la situation actuelle va profiter au gros. C'est un peu comme ce qui s'est passé en 86. On va avoir un changement dans la structure de l'industrie. Et c'est à la fois les gros producteurs, puisque c'est les majors, donc les Exxon, les Chevron, qui vont récupérer les capacités de production dans le pétrole de schiste aux États-Unis, donc et qui vont gérer ça de manière peut-être moins spéculative. De la même façon, c'est les grands pays à bas coût de production qui vont bénéficier, puisque même avec un prix du baril qui est moins élevé qu'avant, ils continuent à faire des bénéfices, alors que ce n'est pas le cas dans un certain nombre de pays, notamment en Afrique. Donc on est clairement dans une situation assez dramatique pour l'Algérie, pour le Nigeria, l'Angola, enfin tous les pays producteurs qui ont des coûts de production relativement élevés et une assez faible transparence de l'utilisation des fonds liés aux matières premières. Donc je pense que leur problème, ça va être d'attirer de nouveau des investisseurs et ça va les forcer à la transparence. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va sortir d'intéressant de cette crise, c'est que dans une logique de baisse de la consommation liée à la transition énergétique, il y aura de la concurrence pour attirer des capitaux et développer des actifs pétroliers ou gaziers, qui va obliger les États à changer leur gouvernance, à être plus transparents, et on l'espère sortir, s'ils peuvent, de la Dutch disease, de cette malédiction des matières premières.
Alors parmi les victimes des aléas du marché pétrolier, la firme singapourienne In Leong, qui a dû déclarer faillite après une perte de 4 milliards de dollars auprès de 20 banques différentes. Parmi ces banques, il y a la française, la Société Générale. avec une ardoise de 280 millions de dollars. In Leong, c'était un acteur clé de l'économie singapourienne, une entreprise de négoce avec des activités de stockage et de transport. Cette chute pourrait en entraîner d'autres, comme nous l'explique dans ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, la correspondante de RFI à Kuala Lumpur, Gabrielle Maréchaux.
C'était il y a 8 ans, à la faveur du CIBON, le Salon international de soutage de Singapour, un événement qui rassemble tous les acteurs essentiels de l'approvisionnement en hydrocarbures maritimes. Sur le stand de l'entreprise In Leong, un représentant de la société se réjouit.
C'est fantastique, c'est de mieux en mieux. Tous les deux ans, on est si heureux de voir autant d'acteurs du secteur.
Un bonheur qui s'affiche jusqu'au nom de cette firme, puisque In Leong veut dire prospérité en chinois, et jusqu'aux cravates de son fondateur. Toujours rouge, la couleur de la chance dans la culture chinoise. Et la chance, cet entrepreneur qui s'est construit tout seul a longtemps su la flairer pour construire une entreprise intimement liée à l'histoire de Singapour. En 1965, Singapour gagne son indépendance et le pétrole devient rapidement clé dans son développement, raconte Hung Wen Hung, auteur du livre Singapore, The Energy Economy.
À cette période, les Américains et les Anglais regardaient vers l'Asie du Sud-Est et ont vu que cette région n'avait pas d'approvisionnement en pétrole. Donc Shell et BP ont été les deux premiers à construire des raffineries à Singapour.
Et alors que les grands groupes pétroliers s'installent à Singapour, un jeune migrant chinois s'intéresse à un marché que les géants délaissent.
In Leong a vu une opportunité et s'est intéressé au marché autour de Singapour. Et il a trouvé des clients au Vietnam, au Cambodge et dans d'autres pays.
Et suivant l'adage, le monde attire le monde. Après l'activité pétrolière, ce sont donc les banques d'affaires qui arrivent à Singapour et In Leong devient également une entreprise de courtage.
Les gens ne connaissaient pas Singapour, ce tout petit pays. Il y avait beaucoup d'incertitudes sur le futur et puis tout d'un coup, les compagnies pétrolières sont venues et ont mis beaucoup d'argent dans l'économie de ce pays. Et grâce à elles, les banques sont arrivées ensuite. Mais aujourd'hui, la plupart des Singapouriens ignorent que sans l'industrie du pétrole, le miracle économique de Singapour n'aurait pas eu lieu.
Mais en ce mois d'avril, le miracle a tourné court.
Tough times ahead for Singapore's oil trading and bunkering sectors.
Arnaud Wagner est un ancien gestionnaire de risque sur le marché des matières premières, désormais à la tête de Iceberg Research, un cabinet de recherche qui enquête sur de possibles fraudes financières et prend des positions boursières à la baisse sur des entreprises soupçonnées de malversations qu'il tâche de révéler. Aujourd'hui, la découverte de 4 milliards de dettes que l'entreprise In Leong doit éponger auprès de 20 banques différentes ne l'étonne pas dans le contexte actuel.
C'est un cas classique d'accumulation de pertes que le fondateur de In Leong a caché et qui, à un moment où le marché a chuté particulièrement rapidement, est devenu impossible de cacher. C'est en général d'ailleurs comme ça que les fraudes apparaissent dans le monde des matières premières quand vous avez beaucoup de volatilité.
Car In Leong est notamment accusé, en plus d'avoir menti sur ses résultats, d'avoir vendu les stocks devant servir de garantie auprès des banques pour se remplumer. Une pratique que certaines places financières permettent plus que d'autres, note Arnaud Wagner.
Il y a des fraudeurs partout dans le monde, mais simplement la façon avec laquelle on les traite est complètement différente. Le problème de Singapour, c'est qu'un fraudeur peut vivre sa vie de fraudeur sans avoir à être puni à un moment. Et donc, comme les fraudeurs le savent, ils ont une tendance à être attirés par ce genre d'environnement. Et une grande partie de l'économie de Singapour, en tout cas celle que je suis, est basée là-dessus.
Et si la réputation jusque-là excellente de In Leong a pu générer une confiance un peu trop grande des banquiers, cette attitude a déjà changé, observe Arnaud Wagner.
Les banquiers sont beaucoup plus prudents avec les traders, notamment ceux qui sont basés à Singapour. Les lignes de financement sont réduites. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que quand des boîtes comme In Leong s'effondrent, ça a un impact sur les autres sociétés qui les financent ou bien qui simplement leur ont livré du pétrole et qui n'ont pas été protégés dans leurs termes de paiement. Ça peut avoir un effet domino sur les autres sociétés du secteur.
Le patron de In Leong a lui perdu sa place de 18e milliardaire de Singapour, selon le magazine Forbes, qui a publié un article le 20 avril intitulé « L'ancien milliardaire dépose le bilan ».
Un reportage signé Gabriel Maréchaux depuis Kuala Lumpur dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. Gilles Chautard, je me retourne naturellement vers vous qui êtes un ancien trader, donc vous connaissez ce monde, les risques, les fraudeurs, etc. Est-ce que cette faillite vous étonne, vous stupéfie?
Non, pas du tout, parce que déjà, le trader ne peut vivre que s'il y a de la volatilité dans les prix, les différentiels, les zones géographiques, les produits, les qualités, etc. Donc, dans une période comme aujourd'hui, où il y a une énorme volatilité, qui en plus n'était absolument pas prévisible, qui nous est tombée dessus à tous sans prévision, c'est sûr que les gens qui étaient les compagnies, ou les traders qui étaient, ou les spéculateurs, qui étaient du mauvais côté de la barrière, c'est-à-dire qui étaient longs, qui n'étaient pas hedgés, qui avaient des longueurs de pétrole physique ou de produits pétroliers physiques sans avoir une contrepartie short sur les marchés à terme, ont été les plus impactés. En plus, Ying Liang a une réputation d'être une société qui vit toujours sur le fil du rasoir et qui aime prendre des paris et qui aime spéculer et éventuellement aller jusqu'au bout de leurs opinions, même si c'est contre le marché. Et il est probable que eux, comme d'autres, étaient du mauvais côté au moment où le coronavirus a frappé.
Philippe Chalmin, est-ce que le monde est du mauvais côté par rapport au marché pétrolier? Est-ce que l'économie mondiale est du mauvais côté?
Disons que il se trouve que nous avons, au moment de cette crise économique, qui est quand même la crise économique la plus forte que le monde ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale, on a aussi, et je le répète, provoqué finalement largement par l'Arabie Saoudite et pour d'autres raisons, on a effectivement une crise pétrolière. On n'a pas de crise d'ailleurs sur les autres matières premières pour lesquelles la baisse des prix reste quand même relativement contenue. Enfin, vous avez eu une baisse de prix du 20% du cuivre, ce qui est assez logique quand on voit la panne économique mondiale. Je vous signale que par contre, il y a deux produits agricoles qui ont chuté à cause du pétrole, parce que c'est à partir d'eux qu'on fait de l'éthanol, donc du bioéthanol, c'est le sucre et le maïs. Alors, pour revenir à l'affaire Ying Liang, je ne suis pas sûr que le coronavirus en soit la principale raison. Je signale d'ailleurs que Ying Liang, votre correspondante a dit que c'est un courtier.
Oui, c'est un trader.
C'est un négociant, c'est ça le terme qu'il faut prendre. Le courtier, il ne prend pas de risque par essence. Là, c'est un négociant. Et je pense qu'ils ont été beaucoup plus touchés par un autre événement qui s'est passé le 1er janvier, qui était le changement de normes sur les carburants maritimes. Or, Ying Liang, avant tout, c'est quelqu'un qui faisait, qui était actif sur le marché du carburant maritime, dans le trading de pétrole. Je ne crois pas, je parle sous le contrôle de M. Chotard, je ne crois pas que c'était un très gros acteur, comme tous les gens qui prennent notamment à Genève, que ce soit Trafigura, Mercuria, Gunvor ou quelques autres. Je ne pense pas là que Ying Liang était un très gros acteur, mais c'est aussi un peu la guéguerre entre Singapour et Genève. Et Singapour, je le rappelle, ce n'est pas un paradis réglementaire, mais c'est un sacré paradis fiscal.
Cette émission est maintenant terminée, elle a été réalisée et mise en onde par Pauline Leduc. Merci à vous trois, Philippe Chalmin qu'on vient d'entendre, Antoine Rostand et Gilles Chotard d'avoir accepté l'invitation de RFI. Pour creuser encore ces questions pétrolières, un autre rendez-vous demain sur RFI dans l'émission géopolitique de Marie-France Chatin. Ce sera à 18h40, on parlera de nouveau pétrole. Et pour Éco d'ici, Éco d'ailleurs, vous pouvez nous réécouter sur l'application de RFI Pure Radio. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques, de nouvelles mésaventures, devrait-on dire.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. La marche du monde.